en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un homme de passion, la passion des sciences et des technologies qu'il a partagé dans ses conférences, dans ses livres ou dans ses chroniques comme les Rendez-vous du futur chez nos confrères d'Europe 1. Très vite et avant d'autres, Joël de René a alerté sur les risques du dérèglement climatique ou de la malbouffe, mais c'est aussi un sportif émérite, grand amateur de glisse. Qu'il s'agisse du ski avec son ami Toutoun, plus connu sous le nom de Jean-Claude Killy, du hobbycat ou du surf. Il fait d'ailleurs partie du club des tontons surfeurs, les pionniers du surf en France. Le surf dont il a d'ailleurs été sacré champion de France en 1960 avant de participer aux mondiaux. Une discipline qu'il vit comme un sport, mais aussi comme une culture, une philosophie. Son petit éloge du surf est paru aux éditions François Bourin et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Joël de René.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dans duplex des studios de France Bleu Pays Basque à Bayonne, que je remercie chaleureusement d'ailleurs. Et ça tombe bien parce que c'est justement au Pays Basque que vous avez pris votre première vague. Alors pas à Bayonne, hein, évidemment, mais à Biarritz. Quel souvenir, quelle sensation est-ce que vous gardez de ce moment-là?
Un souvenir extraordinaire de complémentarité avec la nature. C'est pas moi qui ai fabriqué la vague. C'est une tempête dans le nord de l'Atlantique. Elle vient mourir sur la plage que j'aime. J'arrive non pas à la dompter, mais à vivre en symbiose avec elle, c'est mon souvenir de complémentarité avec la nature, avec l'écosystème qui reste dans ma mémoire, en plus du plaisir de la glisse.
Alors ce sont vos cousins basques hein, qui vous ont initié au surf, mais le surf en fait vous l'avez découvert sur un écran, à travers un film, un documentaire, avec derrière la caméra un réalisateur basque, Jacques Chégaray. Qu'est-ce qui vous a tout de suite intéressé dans ce film?
C'est l'esprit surf que j'ai découvert dans ce film, parce que j'ai vu des gens de tous âges, des petits, des seniors, des femmes, des hommes, glissés sur les vagues à Hawaï, dans la fameuse plage de Waimea et Waikiki Beach. Je me suis dit, mais c'est pas croyable que ce soit tellement répandu, tellement ouvert à tous. Il faut que je m'y mette. Je faisais déjà de la compétition de ski, donc j'avais la notion de la glisse, du fartage, et donc je me suis dit, c'est un sport pour moi, je vais m'y mettre.
Hawaï, c'est le berceau évidemment du surf. On sait comment il est né?
Oui, on sait, les Polynésiens utiliser le surf pour comme sélection naturelle pour les dominants, les castes dominantes de la société. C'était une épreuve en quelque sorte pour déterminer ceux qui allaient être appelés à régner, ceux qui étaient capables de dominer les vagues sur des planches très lourdes. C'était un critère sociétal pour sélectionner les dirigeants.
Oui, c'est-à-dire que le surf était une sorte de rituel extrêmement codifié?
Les deux. Il y a à la fois un rituel, une sorte de communion avec la nature, une sorte de prière avec les vagues, d'une part, et d'autre part, un système de sélection naturelle pour permettre aux plus doués, aux plus forts, aux plus costauds de diriger.
Avec aussi une dimension spirituelle.
Les deux. Dimension spirituelle et dimension politique.
Mais qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui, Joël de René, de cette dimension culturelle et spirituelle parmi les surfeurs du XXIe siècle?
Bon, je pense qu'elle reste toujours dans une certaine génération. Je suis pas sûr que les jeunes générations surfeurs soient très portées sur la question spirituelle du surf. En revanche, chaque année, il y a des cérémonies, notamment ça s'appelle Hokapu en hawaïen, des cérémonies où on mélange les eaux de tous les pays. Chacun vient avec de l'eau de son spot et on les mélange ensemble en faisant un grand rond dans l'eau avec les planches de surf, à la fois pour célébrer la venue des nouveaux surfeurs, par exemple dans les spots de Biarritz, ou bien la disparition d'un surfeur ou d'une surfeuse. On se réunit en rond dans l'eau et on verse l'eau de notre pays au milieu et on éclabousse tout en envoyant de l'eau vers le ciel.
Et on continue d'utiliser des mots hawaïens, on pense évidemment au fameux Aloha qui est connu dans le monde entier.
Oui, moi je termine beaucoup mes emails avec des copains surfeurs par Aloha, c'est plus court, c'est exactement ça veut dire à la fois bienvenue et à bientôt.
Alors justement, Joël de René, comment le surf a-t-il glissé de Hawaï vers le reste de la planète et jusqu'au Pays Basque?
On doit ça beaucoup à Duke Kahanamoko, un grand champion hawaïen de natation. Il a gagné les Jeux Olympiques à Sydney dans les années 50. Il a gagné les Jeux Olympiques de natation, c'est un champion olympique. Il a eu l'idée d'aller dans le musée d'Hawaï chercher une vieille planche en balsa qui était là, complètement abîmée. Il l'a portée devant les journalistes et il a dit « Vous allez voir, voilà la révolution, les gens vont conquérir l'océan avec ces planches, on va en faire des plus petites, des plus maniables, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Il avait raison, il avait vu ça avant tout le monde. Moi, je l'ai vu un peu plus tard, mais j'y croyais aussi beaucoup.
Mais Hawaï, c'est une toute petite île perdue comme ça au milieu de l'océan. Comment le surf est-il devenu ce sport de dimension intercontinentale ?
D'abord parce que beaucoup de Californiens, de Floridiens, Américains allaient passer leurs vacances à Hawaï. Beaucoup de gens de la côte est des États-Unis, à la côte ouest des États-Unis, allaient traverser le Pacifique pour aller à Hawaï. Donc ils ont vu pratiquer ce sport. Déjà Cook, James Cook l'avait décrit. Et donc les gens se sont dit pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas l'implanter chez nous. Et c'est grâce justement à des Hawaïens qui ont fabriqué des planches très légères que le surf est rentré en Californie et qu'il a essaimé dans le monde entier.
Et jusqu'à cette plage de la côte basque qui porte le très joli nom de Chambre d'amour. C'est donc dans cette Chambre d'amour que le surfeur Joël de René a été conçu.
Oui, c'était à la plage de la côte des Basques. Ensuite, il était à la Chambre d'amour où les vagues sont plus grosses. Il faut traverser la ville de Biarritz, il faut avoir une voiture et un porte-toit fixe au toit pour mettre sa planche dessus. Mais c'est à la côte des Basques que ça a vraiment commencé. C'était toute une expédition d'aller à la Chambre d'amour, comme vous dites, un très joli nom. Donc ça a commencé à la côte des Basques parce que les vagues se forment loin. À marée basse, les vagues sont très faciles. On a pied, on peut pousser quelqu'un sur une planche, la personne se met debout tout de suite. C'est comme ça que j'ai donné une leçon à Catherine Deneuve qui s'est mise debout tout de suite. Je l'ai poussée sur une vague à marée basse, elle a été très douée, elle s'est mise debout, elle a voulu recommencer. J'ai donné une leçon qui a duré une bonne heure.
Oui, la photo est d'ailleurs dans le livre, donc c'était une bonne élève. Elle continue à surfer à votre connaissance ?
Je crois pas qu'elle continue à surfer. En revanche, comme m'a dit ma sœur qui la connaît très bien, c'est qu'elle a mis cette photo célèbre qui a fait le tour d'Internet et le tour des réseaux sociaux sur sa cheminée.
Alors c'est vrai qu'elle est assez extraordinaire, hein, l'histoire que vous nous racontez dans votre livre, Joëlle de René. On parlait de grande actrice, Catherine Deneuve, il y en a aussi une autre que vous citez dans le livre, c'est Deborah Kerr, grande actrice hollywoodienne. Comment en est-elle venue à être la marraine du club de surf que vous avez fondé, qui était d'ailleurs le premier club de surf français ?
Parce que j'étais l'épouse de Peter Viertel, celui qui nous a amené la première planche. Elle était mariée à Peter Viertel et elle est tellement belle, tellement magnifique, tellement spectaculaire que nous avons tous demandé d'inaugurer officiellement le surf club de la Chambre d'amour qui est devenu ensuite le surf club de France. Donc elle est devenue un peu la marraine du surf club de France.
Et donc Peter Viertel vous a beaucoup, beaucoup encouragé. Comment ça s'est passé la rencontre avec lui ? Parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez fort.
Oui, absolument. Ce sont des amis qui habitaient le long du phare de Biarritz, les grandes villas vertes qu'on voit, qui sont toujours là, à côté du phare de Biarritz, et Ourestil et La Sota, qui m'ont dit, écoute Joël, toi qui te passionnes pour le surf sur le ventre, à plat ventre, il y a un type qui fait du surf debout. J'ai dit, c'est pas possible, on peut pas faire du surf debout, il faut une planche spéciale, est-ce qu'il l'a ? Oui, oui, là, va le voir, il est à la côte des Basques. Moi, le seul moyen de transport que j'avais à l'époque, c'était un Solex. J'ai pris mon Solex. Et j'étais à la côte des Basques et j'ai rencontré cet homme, Peter Viertel, qui m'a dit « Écoute Joël, je pars 3 mois en Espagne tourner un film de Hemingway, The Sun Also Rise, avec Tyrone Power, je te laisse ma planche, débrouille-toi ». Débrouille-toi, c'est vraiment le cas, parce que personne ne m'avait appris comment faire, je me suis débrouillé, j'ai galéré, comme on dit, pendant 3 semaines avant de me mettre vraiment debout.
Comment est-ce qu'elle était cette première planche, vous vous en souvenez ?
Oh, oui, très bien, mais elle est toujours au musée du surf, elle était une planche en balsa, qui était peinte vers des rayures comme les arêtes d'un poisson, vertes et rouges, et que j'avais surnommé du nom de ma copine de l'époque, Jomi. Joël, pour elle, elle s'appelait Mimi. Donc c'était écrit au vernis à ongles, en dessous de la planche, Jomi. Elle est là dans les photos, dans le livre, vous la verrez. Je ne sais pas si on peut lire ce qui est écrit en bas, mais on la voit très bien.
Alors, c'est une coutume là, dans le monde du surf de donner un petit nom à chacune de ces planches ?
Oui, absolument, c'est une coutume. Donner le nom de sa petite copine, pas toujours, mais de donner un nom à sa planche, absolument.
Donc c'est vous hein, qui avez lancé le surf en France, Joël de René, alors pas tout seul, avec votre bande de copains. Et donc, ce que j'ai cru comprendre en lisant le livre, mais aussi par rapport à ce que vous venez de nous dire, c'est qu'au départ, vous étiez un réel autodidacte. Vous avez appris tout seul ?
J'ai appris tout seul. J'ai juste eu la chance de voir 2 étudiants américains qui étaient à l'université de Bordeaux, passé sur la plage de la Grande Plage, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous mettez les 2 pieds parallèles sur la planche, il faut mettre 1 pied devant, 1 pied derrière, et surtout il faut passer de la bougie sur la planche pour éviter de glisser dessus, parce qu'il était très glissant dessus et dessous. » Donc ces 2 éléments ont tout changé pour moi, la position des jambes et la paraffine.
Et les gants de vaisselle, c'était pas une bonne idée, d'après ce que je peux comprendre.
C'était une très mauvaise idée. Je me suis dit, pour ramer mieux, je vais prendre des gants de vaisselle avec des rustines. Je vais coller des rustines entre les doigts pour avoir des doigts palmés. Ça n'a pas marché, ça se remplissait d'eau. C'était pire que tout.
Bon, ça démarre effectivement de façon assez artisanale, sauf que vous avez atteint un excellent niveau, c'est bien qu'on puisse dire. Je le disais en commençant cette émission, un champion de France, vous avez participé au championnat du monde. Vous aviez déjà l'esprit de compétition à ce moment-là ?
Ah oui, j'ai toujours eu l'esprit de compétition, j'ai l'esprit de compétition en général. Je faisais de la compétition de ski déjà depuis l'âge de 14 ans, en slalom géant. Donc l'esprit de compétition en surf est venu tout naturellement.
Et parmi votre club de copains, ben il y en a qui ont fait une carrière absolument magnifique.
Absolument. Il y en a qui ont fait une carrière, ils sont devenus champions du monde, comme Kelly Slater maintenant, mais à l'époque, il était trop jeune. Mais Michel Barlan, Jacques Hiroth, des locaux de la Côte Basque ont fabriqué des planches. Jacques Hiroth, Michel Barlan est devenu champion d'Europe de surf. Barlan et Hiroth ont été, avec Joe Moraes, envoyés faire les championnats du monde au Pérou. Moi, j'y suis allé l'année d'après. Donc, le surf a pris une grande importance sur la côte basque. Et les Basques se sont vraiment distingués.
Petit medley de Surf Music dans VMDN sur RFI avec notre invité Joël de René en duplex des studios de France Bleu Bayonne pour son petit éloge du surf paru aux éditions François Bourin. Et tous les extraits de ce medley, Joël de René, ce sont des références que vous citez dans votre livre. On peut dire qu'il y a vraiment une surf music ?
Il y a une culture surf, et dans la culture surf, il y a évidemment l'habillement. Et il y a évidemment la surf music. Tout ça, ça marche ensemble. Et d'ailleurs, les adeptes de la glisse, qu'il s'agit des gens qui font du parapente, des gens qui font du snowboard, des glisseurs du surf, des glisseurs du windsurf, ils ont tous un peu la même culture dans l'habillement, dans les casquettes, dans les t-shirts. Ça se retrouve et la musique va avec, évidemment.
C'est-à-dire que le surf est un sport de tribu ?
Oui, c'est un peu tribal. On dit que c'est un sport solitaire, mais en fait, quand on revient au spot, retrouver les copains après une belle vague, ils vous font le pouce en l'air en disant « belle vague, bravo, c'est super ». Donc on a une sorte de galerie, c'est un peu café du commerce au spot quand on bavarde en attendant les vagues, et quand on revient, même si c'est un sport solitaire, c'est un peu un sport de famille, où les gens vous félicitent quand vous avez pris une belle vague.
Il y a tout un langage hein, aussi, il y a un petit lexique d'ailleurs qui se trouve à la fin du livre. Alors, par exemple, on n'aura pas le temps de tous les citer, mais juste un exemple, puisque vous insistez là-dessus dans le livre, c'est quoi un tube, Joël de René ?
Un tube, c'est quand le vent souffle contre les vagues, la vague devient transparente, elle se recourbe un peu comme un tunnel, et l'art du surfeur, c'est de surfer vers la sortie de ce tunnel, c'est l'endroit le plus pentu. Pour ça, on met la main dans l'eau pour se freiner, rester à l'intérieur du tube le plus longtemps possible, et puis on le voit devant nous, c'est là où la vague a le plus de pente. C'est vraiment, et en plus quand c'est filmé, c'est magnifique parce que le surfeur disparaît dans la vague, on le voit par transparence, dans le reflux de la vague, et puis renaître à la sortie du tube, c'est un peu comme renaître à la vie, sortir du ventre de sa mère, on renaît.
Comment est-ce que vous définiriez l'esprit du surf ? Je parlais de philosophie tout à l'heure, c'est un petit peu ça que vous défendez d'ailleurs à travers cet éloge du surf.
C'est à la fois le déterminisme, la liberté et l'adaptation. l'adaptation, la prévision, le déterminisme, comme je le disais, parce que la vague est formée par une tempête dans l'Atlantique Nord, elle vient se briser sur un spot que je connais parfaitement, et la liberté, c'est ce que j'ai moi sur cette vague, d'effectuer les mouvements que je veux, de pouvoir en sortir, de pouvoir la continuer. C'est carpe diem, on profite de l'instant parce que le vent peut tourner, les autres surfeurs peuvent arriver, la marée peut descendre et les rochers peuvent affleurer. Donc tout ceci, c'est de profiter maintenant, à l'instant, et comme tout ce qui peut disparaître très vite, ça suscite la passion de l'instant, mais aussi le plaisir de non pas de dominer, mais de rentrer en complémentarité avec les vagues. C'est tout ça, le plaisir, c'est à la fois les endorphines, les hormones du plaisir, et à la fois l'adrénaline, l'hormone du stress. Quand les vagues sont trop grosses et qu'on reste en dessous trop longtemps.
Et en passant, Joël de René, vous lancez aussi un appel au respect de l'environnement, à la conscience écologique. C'est dangereux pour la planète, le surf ?
Alors, dans mon livre, j'ai aussi la notion de ce que j'appelle « surfer la vie », c'est-à-dire utiliser la métaphore du surf pour aller vers une société plus fluide, moins hiérarchique, moins pyramidale, où chacun a sa place. Plutôt, je plaide pour le pouvoir transversal dans la société fluide, plutôt que le pouvoir pyramidal dans la société actuelle. Et en même temps, le surf, c'est une connaissance de l'écologie, de l'écosystème. On est au cœur de l'écosystème. Et comme je vous l'ai dit, pour remercier l'écosystème de me donner des vagues aussi sympas et qui me donnent autant de plaisir, j'essaye de protéger l'écosystème du mieux que je peux, de ramasser les déchets, d'éviter de polluer. Or, malheureusement, le surf est un sport polluant. Les planches en plastique mettent très longtemps à se dégrader. Les combis en néoprène, les liches. Tout ceci se dégrade très longtemps. Heureusement, beaucoup de start-up font des efforts pour créer des planches biodégradables, des combis. Je crois qu'on va aller vers des combis en chitine. La chitine, c'est la carapace des insectes, des crustacés. C'est un produit naturel qui se dégrade beaucoup plus facilement que le néoprène.
Dans la culture surf, il y a aussi le film de Catherine Bigelow, Point Break.
You ever surf anything like this?
I've surfed.
Yeah, but you ever surfed anything like this?
Un film avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film, Joël de René? Vous n'allez pas me dire que le braquage, c'est aussi l'esprit du surf?
Non, pas le braquage, mais c'est la fin surtout, où le type décide que entre le parapente et se lancer d'un avion presque sans parachute et de prendre la plus grosse vague du monde, il y a une espèce de défi, je dirais, d'addiction au surf. C'est ça qui m'a fasciné. Pas le braquage, mais c'est l'esprit surf qu'il y a dedans, les très jolies vagues qu'on voit. Et ce type qui est un gars du FBI, qui s'y met aussi pour rentrer dans la culture des autres, mieux les comprendre et mieux les rendre prisonniers de ce qu'ils ont fait en fait. Moi j'ai beaucoup aimé ce film, c'est un film culte pour nous. Il y a aussi un livre culte qui est le livre de Finnegan, ce journaliste, reporter, Jour barbare, un gros livre de 600 pages qui est magnifique à lire. Je connais peu de gens qui décrivent aussi bien le tube, l'intérieur de la vague, les conditions de surf que Finnegan dans ce livre. C'est un livre remarquable, très gros, long à lire, mais on apprend beaucoup de choses.
Est-ce que vous partez surfer, là, dans quelques minutes, après cet entretien?
Juste après le rendez-vous avec vous. Je vous remercie encore de m'avoir invité. Il est 15h45 et je vais y aller, bien sûr.
Vous surfez tous les jours?
Oui, dès que c'est bon. Quand c'est pas bon, j'attends que ce soit meilleur. Mais quelquefois, je surfe même quand c'est mauvais. Parce que comme c'est mauvais et qu'on prend quand même quelques vagues, le jour où c'est bon, ce sera encore meilleur.
Eh bien, merci beaucoup et aloha, Joël de René.
Aloha, merci de m'avoir invité.
Petit éloge du surf, paru aux éditions François Bourin. Merci.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Les rencontres de la photographie 2020 ont été annulées à Arles en raison de la crise sanitaire, alors que l'Afrique devait être à l'honneur de cette édition. Toutefois, plusieurs galeries ont décidé de déplacer le festival, comme avec Arles à Paris, un parcours artistique qui invite à une balade photographique dans plusieurs galeries de la capitale française. Kpenaï Traoré est allé retrouver des photographes africains qui exposent justement dans le cadre de cette manifestation.
À la galerie RZ, le photographe congolais David-Pierre Fila capture des instants de vie à Château-Rouge où il a rencontré des personnages hauts en couleur, des sapeurs qui prennent la pose.
Ce que j'aime beaucoup dans ces poses, c'est montrer ce quartier de Château-Rouge où les gens viennent faire les courses pour un moment, pour un après-midi. Et dans ce marché, dans ce quartier très populaire à Paris, on voit des gens qui s'habillent, qui se montrent, mais avec un côté un peu pas genre pour pour frimer, comme on dirait, mais parce qu'ils aiment ça. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est montrer la réalité de ces gens en exil. Quand on voit Chabani par exemple, il fait un petit métier, il est vigile dans la vie. Mais regardez comme il est beau dans ses couleurs.
Qu'est-ce qu'il porte là, avec les couleurs?
Il porte une belle chemise colorée, il porte un beau gilet orange avec un pantalon velours couleur vermillon, un peu vers le rouge vin, et puis les chaussures vertes, c'est magnifique. Et derrière, il y a les gens qui passent, qui font pas attention à lui, mais lui, il est là comme une statue, en fait. Et là, on a le bachelor, et il est au milieu dans une rue qui est toute petite, en fait. C'est le marché, dans le 18e à Château-Rouge, et là, il pose.
Si vous deviez choisir une musique pour aller avec cette exposition...
La rumba, Franco. Franco, parce que ça nous a bercé dans notre enfance.
Et c'est sur ce titre de Franco que je me dirige vers le Sénégal tout en restant à la galerie RZ où le jeune photographe sénégalais Mabey Dem expose une série de photos qui donnent une impression de résister à l'usure du temps. Un rendu obtenu grâce à un effet de filtre. Mabey Dem.
C'est des tentes qui, à Dakar, dans le Sénégal, on les installe, des tentes blanches, on les installe, on bloque les rues parce qu'il y a une cérémonie. Et du coup, moi je suis à l'intérieur de la tente et j'utilise ce tissu comme filtre. Je prends juste la photo à travers le tissu. Dans les rues populaires, dans les quartiers populaires, on se prête ces tentes. Et du coup, ce tissu finit par être usé. Et j'aime bien cette marque du temps, comme amplifier le temps dans la photo.
Mabey Dem présente aussi Goudi Dakar, des photos de nuit dans les rues de la capitale sénégalaise. Mais cette fois, à la galerie du PIF.
Goudi, c'est en Wolof. Donc Goudi, la nuit. Donc c'est la nuit dans Dakar. Je me balade dans les rues de Dakar, surtout les rues très sombres, où il n'y a pas trop d'éclairage public, et où les lampadaires ne fonctionnent pas forcément. Et moi, ce qui me plaît, c'est de sillonner la rue et de photographier les choses aussi bien qui peuvent être inquiétantes liées à la nuit, et les choses aussi rassurantes de la nuit.
Une autre vie. Qu'est-ce qui vous a plu alors en faisant cette série de photos la nuit ?
Ce qui m'a plu, c'est que dans Dakar, chaque quartier a vraiment son identité. Alors ce qui est intéressant, c'est de se promener dans ces différents quartiers. Et ce mystère de la nuit, ces choses un peu cachées de la nuit, sont intéressantes, puisque à Dakar, c'est la nuit, c'est aussi les bars qui ouvrent, alors qu'ils n'ouvrent pas forcément la journée. Et il y a une autre vie.
Arla Paris expose aussi d'autres photographes africains, Niamba Léon Ouédraogo, Boubacar Touré, Mandé Mori, Robert Nzaou, King Massassi et Malik Sidibé.
Reportage de Kpenaï Traoré dans VMD.
Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Marjorie Bertin, Marie Billon, Éric Cherin et Alain Pilot. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour, François.
Alors vous, comme ça Alain, vous êtes venu en avion avec Boule aux commandes.
Et Boule, c'est le pseudo de ce chanteur, et Avion, l'acronyme de Appareil volant imitant l'oiseau naturel, le titre de l'album.
Il fallait quand même l'oser et y penser. Alors il fait beau. Enfin, pas trop hein, aujourd'hui. Enfin, il fait chaud sur la France, mais on a quand même envie hein, par cette saison de se promener en extérieur. Et on va le faire donc dans ce café gourmand avec vous, Marjorie et Éric. Pour commencer, Marjorie, où est-ce que vous allez nous emmener ?
Alors moi, je vais vous emmener au domaine du château de Chaumont-sur-Loire, à 2 heures de route de Paris, pour découvrir la 29e édition du Festival International des Jardins, qui invite cette année les visiteurs à considérer la Terre comme notre mère à tous. Une mère dont il faut prendre soin, c'est bucolique, poétique et plein d'espoir. Les auteurs des jardins donnent envie de multiplier les lieux verts et d'y passer du temps.
Direction donc la Touraine. Vous, Éric, vous êtes intéressé à une autre région. Vous êtes parti au nord de Paris.
Oui, je vous emmène à Amiens, Jean-François, dans l'univers très aquatique et apaisant des ortillonnages. C'est le cadre d'un festival où art et jardin, nature et culture font bon ménage depuis 11 ans. Le développement durable y est à l'honneur cette année.
Mais pour commencer, on va passer la Manche, direction l'Angleterre avec vous, Marie. Cette année marque les 400 ans de la traversée du vaisseau Mayflower de Plymouth en Angleterre à ce qui sera Plymouth au Massachusetts aux États-Unis. Petit rappel historique pour commencer, environ 135 protestants séparatistes, ceux qui ne trouvaient pas leur place dans l'église d'Angleterre établie, fuient à ce moment-là les persécutions en Angleterre et en 1620, ils vont donc traverser l'océan pour créer une nation qu'ils voulaient idéale. Alors cette année 2020 devait évidemment être saupoudrée d'événements commémoratifs, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, mais le coronavirus a bien sûr tout chamboulé. Quoi qu'il en soit, Marie, en fait, ce 400e anniversaire devait de toute façon être différent des autres.
Oui, en fait, il devait surtout se démarquer du 350e anniversaire. Des commémorations qui se sont plutôt mal passées, comme le dit Paula Peters. C'est par Skype que cette représentante de la tribu des Wampanoags, sur les terres desquelles sont arrivés les pèlerins, nous a rafraîchi la mémoire.
Les organisateurs avaient lancé une invitation malhonnête à l'un des leaders des Wampanoags, Frank James, lui proposant de donner un discours lors des commémorations. Mais une fois qu'ils ont pris connaissance de son texte, ils lui ont dit que ses remarques, bien qu'exactes, étaient provocantes. Lui voulait parler des membres de la tribu qui ont été kidnappés et réduits en esclavage, des maladies importées par les Européens et le fait que les colons n'ont pas respecté l'accord qu'ils avaient conclu avec les Wampanoags. Ils lui ont demandé de donner un discours plus sympathique et moins agressif. Mais Frank James a refusé d'être censuré. Alors il a préféré donner son discours devant des centaines d'Amérindiens rassemblés à Plymouth, Massachusetts, le jour de Thanksgiving 1970.
Parce que bien sûr, ce dont on se rappelle du Mayflower et ce que les Américains célèbrent chaque année en novembre pour Thanksgiving, c'est cette entente, cette amitié qui aurait été tissée entre les Wampanoags et les pèlerins, une version idéalisée de la réalité, confirme Adrian Vinken, l'un des organisateurs des commémorations du 400e anniversaire.
We are looking at the narrative of the Mayflower.
Nous nous interrogeons sur la manière dont l'histoire du Mayflower a été racontée jusque-là. Dans le passé, on a surtout eu une vision romantique des aventures des pèlerins protestants, un voyage spirituel entrepris pour créer une nouvelle vie sur une terre sauvage où ils ont rencontré des autochtones et ils se sont tous serrés les coudes. La réalité est beaucoup plus sombre. Le voyage fut horrible. 6 mois après leur arrivée à Plymouth, dans le Massachusetts, la moitié des colons étaient morts de faim, de maladie ou à cause du climat. La seule chose qui a permis aux autres de survivre, c'est que les Wampanoags leur ont tendu la main, ont partagé leur nourriture, leur ont montré comment cultiver le sol, comment pêcher. Mais en conséquence, la colonisation s'est intensifiée et pendant les 50 années qui ont suivi l'arrivée du Mayflower,
une guerre sanglante a donné lieu à un quasi-génocide des Wampanoags.
C'est pour ça que cette année, les célébrations sont faites conjointement avec les quatre nations, dit Adrienne, britanniques, américains, Wampanoags et aussi néerlandais, puisque ce sont eux qui ont inspiré l'idéologie des pèlerins. Mais il ne s'agit pas non plus de rester dans une version noir et blanc de l'histoire en renversant les rôles. Jim Peters, le cousin de Paula qui lui aussi participe à l'élaboration des commémorations, ne veut pas idéaliser les motivations des Wampanoags en aidant les colons.
Quand ils ont vu les conditions auxquelles étaient soumis les femmes et les enfants du vaisseau, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas qu'ils souffrent comme eux-mêmes avaient pu souffrir dans le passé. Ils ont agi. Mais je pense que les chefs avaient aussi en tête le fait que les Européens apportaient des connaissances et une puissance militaire qui pourrait leur être utile face à leurs ennemis.
Le fait est, rappelle Paula, que les colons ont signé un traité avec les Wampanoags qui se sont retrouvés alors soumis à la juridiction du roi d'Angleterre, dit-elle, ce qu'ils n'avaient pas prévu et qui de fait les dépossédait de leurs terres.
Alors Marie, comment les organisateurs proposent-ils de rectifier ça?
Alors pour l'instant, bien sûr, le coronavirus a fichu tout le programme en l'air. L'une des expositions phares qui devait ouvrir à Plymouth en Angleterre, c'est Mayflower, légende et héritage. Adrian en a parlé lors d'une conférence de presse virtuelle.
It's the largest ever collection.
C'est la plus grande collection d'artefacts du Mayflower provenant d'une trentaine de musées de par le monde. Paula en est la co-commissaire. Il y aura aussi de nombreux extraits de films car l'exposition explore la vision hollywoodienne du récit.
Dans cette exposition, il devait aussi y avoir la première œuvre d'art jamais commandée à des artistes Wampanoag. Il s'agit d'une Wampum Belt, une ceinture Wampum que Paula compare au joyau de la couronne d'Angleterre en termes d'importance pour sa tribu. L'original avait été envoyé comme un trophée de guerre au roi d'Angleterre, James II, mais a été perdu. Cette œuvre d'art, dont les motifs racontent l'histoire de la tribu, devait voyager dans plusieurs expositions à travers l'Angleterre cet été et cet automne, mais pour l'instant, aucune Chine n'a pu ouvrir.
Mais le virus n'a pas annulé toutes les commémorations.
Non, parce que certaines avaient déjà commencé, hein, dès le début de l'année. Il y a par exemple eu un spectacle son et lumière à Plymouth en Angleterre.
C'est un début et une fin symbolique pour cette année de commémoration basée sur une citation de William Bradford, l'un des leaders chefs pèlerins, qui a écrit un fameux ouvrage sur la plantation de Plymouth. Il y parle d'une chandelle qui peut en allumer plein d'autres, celle d'une communauté puis d'un pays tout entier. Un symbole donc de leur idéologie et de leur projet de nation.
Parce qu'à l'occasion de ces 400 ans, les organisateurs veulent aussi rappeler que les pèlerins qui fuyaient les persécutions religieuses auxquelles étaient soumis les protestants séparatistes sont arrivés avec la Magna Carta. Ce texte anglais du XIIIe siècle qui forme les prémices de l'état de droit a été la base du Mayflower Compact, un contrat signé par les pèlerins définissant les libertés et leurs limites dans les colonies, un texte qui inspira aussi la déclaration d'indépendance pour la constitution américaine. Autre forme de commémoration qui n'a pas été arrêtée par la pandémie, c'est la musique. Le musicien anglais Ed Welch a composé l'hymne de Dartmouth. Alors Dartmouth, c'est une petite ville côtière de l'ouest de l'Angleterre où le Mayflower a accosté. L'hymne parle d'un voyage d'espoir mais plein de difficultés. La musique est disponible en ligne. Le programme des commémorations 2020 devait être chargé et multiple, cumulant le 16 septembre, date du départ définitif du Mayflower de l'Angleterre. Une grande fête et un spectacle son et lumière sur le port de Plymouth devaient rassembler 50 000 personnes, mais pour l'instant, le programme semble plutôt compromis.
Marie Billon dans Café Gourmand de VMD. Merci.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Twenet ».
Alors Marjorie, vous avez croisé des canards qui parlent anglais au Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire ?
Non, hélas Jean-François, mais ça aurait presque pu, car ce festival, c'est un concours international lancé dans les journaux de paysages et de jardins du monde entier. Et cette année, le festival a pour thème « Les jardins de la terre, retour à la terre-mère ». Alors cette terre-mère, c'est Gaïa, la déesse qui personnifie la terre fertile et protectrice dans l'Antiquité grecque. Un thème très écologique et très éloigné des théories défaitistes que l'on entend parfois sur l'avenir de la planète. C'était la volonté de Chantal Colle-Dumont, la directrice du domaine et du Festival international des jardins.
Nous sommes tous conscients de la problématique du réchauffement climatique, de l'érosion de la biodiversité, d'une situation de plus en plus préoccupante parce que l'industrialisation à outrance et l'urbanisation galopante ont des conséquences sur la Terre particulièrement inquiétantes. Alors face à cette situation, on est dans la proposition de solution. Et ce qui a été demandé à ces concepteurs du monde entier, c'était de voir quelle technique de culture, quelle attitude on peut avoir pour trouver des solutions.
Trouver des solutions, c'est vraiment tout le sens de cette édition, tout en sensibilisant évidemment les spectateurs dans cette poésie un peu magique qui émane des 30 jardins féeriques répartis sur 3 des 32 hectares du domaine. Chantal Colle-Dumont, avec laquelle je me suis promenée dans ce festival, m'a guidée dans le décryptage de Régénération, un jardin bleu et vert qui montre l'effondrement, mais pas seulement.
On voit des arbres qui se penchent, qui tombent, et c'est vraiment la figuration, la métaphore de l'effondrement dont on parle beaucoup, mais avec la possibilité pour la nature de réagir, de repousser. De la même manière, il y a des vignes qui sont plantées à l'envers et elles retournent vers le haut. La vigne est très forte. Donc l'idée, c'était de figurer l'effondrement, les risques, mais en même temps les facultés de résilience.
Et puis il y a un second jardin que j'ai beaucoup aimé et qui est assez rigolo. Il s'appelle la planète fleurie.
C'est un jardin chinois qui présente une boule qui représente la terre en terre crue. Et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de végétation sauf sur le haut de cette planète qui d'ailleurs ironiquement s'appelle la planète fleurie. Et on a une petite échelle qui permet d'aller voir tout ce qui reste. C'est vraiment en écho de façon assez puissante de la déforestation qui existe en Afrique, qui existe au Brésil.
Alors ça c'est de la figuration, de la création, mais au-delà du message, Marjorie, est-ce qu'il y a des solutions concrètes proposées à travers ces jardins ?
Oui bien sûr, car les concepteurs des jardins sont très sensibles sensibles à la sauvegarde de la Terre dont ils connaissent très bien les ressources. Ils y pensent concrètement, notamment en proposant un retour à des techniques paysannes ancestrales. Chantal Colleux-Dumont.
Il y a un jardin réalisé par une équipe belge qui s'appelle le Jardin Moret et qui met en évidence une technique inca où vous avez des cultures par étagement et vous avez la possibilité dans un même endroit d'avoir des microclimats et d'avoir différentes sortes de cultures, différentes sortes de légumes. Cette technique ancienne permet de donner une réponse extrêmement intéressante aux problématiques de la nourriture. Également un jardin qui s'appelle Drôle de Trogne, avec un arbre dressé comme une sculpture qui évoque cette technique très ancienne des trônes qui permettent de récupérer le bois sans tuer les arbres.
Et les concepteurs des jardins viennent donc du monde entier, aussi bien d'Afrique que d'Irlande, d'Italie ou encore de la Chine, comme on vient de l'entendre. Ils ont rivalisé d'imagination pour créer ces espaces apaisants où il fait bon musarder, même si la plupart d'entre eux ont travaillé à distance à cause des restrictions de voyage liées au Covid.
Alors justement, est-ce que ça a rendu ce festival et sa création plus écologique pour cette édition 2020 ?
Pas tellement en fait, puisque l'écologie est de toute façon au cœur de la conception de ce festival. Chantal Colleux-Dumont.
Nous sommes déjà extrêmement soucieux des questions liées à l'écologie, très respectueux de l'environnement, des herbes à la binette, il n'y a pas de produits dangereux, on est un lieu d'abri pour les oiseaux. On fait intervenir un maximum d'équipes locales, d'entreprises locales, d'artisans locaux, de gens en interne. C'est dans notre ADN. Nous faisons très attention. Les concepteurs qui viennent, ils viennent une fois, quand ils viennent de Chine, du Brésil ou d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus mettre en péril le caractère international d'une manifestation comme celle-ci, parce qu'on ne peut pas faire des jardins uniquement en local.
Et malgré le coronavirus et l'absence d'un public extra-européen dans les murs cette année, il y a beaucoup de monde dans ces jardins. Les promeneurs semblèrent ravis de découvrir ce que Chantal Colleux-Dumont appelle joliment la poésie verte.
Et ces jardins extraordinaires sont donc à découvrir au domaine de Chaumont-sur-Loire en Touraine tous les jours jusqu'au 1er novembre. Merci Marjorie. Et on continue à se promener dans la nature avec vous, Eric, et ces jardins qui sont des œuvres d'art, hein, des œuvres d'art au cœur d'une nature qui serait elle-même une œuvre d'art. C'est la balade que vous allez donc nous proposer au cœur du 11e festival des ortillonnages. C'est à Amiens, à une heure de Paris, à peine en train, et ça va durer 4 mois.
Ouais, notre barque nous attend amarrée à un ponton. Elle porte un nom, Jean-François, origami en référence à l'art japonais du pliage du papier. Un ponton flottant à la forme aérienne et pliée, créé par le plasticien belge Alexis de Coninck. Allez, on embarque pour une balade poétique et artistique au cœur des ortillonnages, où Gilbert Filinger a eu l'idée de créer un festival international des jardins il y a 11 ans.
Pour moi, après 11 ans, je vous garantis, j'ai toujours cet émerveillement, une sorte aussi de bien-être, de paix qui s'installe quand vous êtes au milieu de ces étangs. Et c'est quand même un endroit rare, unique. On ne peut pas dire qu'il y en ait deux de pareil en France. Grâce au travail qu'on a mené, on a quand même aussi mis en place une sauvegarde des ortillonnages. Mais on y a installé autre chose aussi. On y a installé des œuvres d'art du jardin et c'est ça qu'on va aller visiter.
Bon, mais en quoi consistent exactement ces fameux ortillonnages, Eric ?
Imaginez, hein, Jean-François, le long de la Somme, aux portes d'Amiens, d'anciens marais aménagés par l'homme, une multitude d'îlots, de l'étang de Clermont à l'île aux fagots, des îlots cultivés depuis des centaines d'années, mais sur les 10 000 hectares d'origine, il n'en reste plus que 300 aujourd'hui et une poignée de maraîchers, ortillons en Picard. Francis est l'un d'entre eux.
Les salades, les radis, les oignons, le persil, les tomates, le melon qu'on a commencé aussi, les concombres, les courgettes, donc les poireaux qu'on voit aussi là-bas. Après, il y a toute la gamme de choux, choux-fleurs, choux-brocolis, choux romanesco. Alors moi, j'ai toujours été élevé, hein, on pourrait dire que j'ai été élevé dans un chou en fin de compte. Parce que je suis né, ma mère faisait des bottes de radis et avec le landau dans le parc de radis. Donc elle faisait des bottes de radis et d'une autre main, des fois, donnait le biberon. Donc on a toujours été élevés là-dedans, hein, nous, que ce soit moi, mes frangins.
Ici,
ici, dans les ortillonnages. On a toujours fait que ça, que ça, que ça.
Un métier, une vie d'ortillon sauvée, Francis n'hésite pas à le dire, par l'arrivée du festival et des artistes sur ces terres très fertiles mais menacées, Jean-François, comme oubliées par l'homme et reprises par la nature.
Oui, parce que si on repartirait une dizaine d'années en arrière, hein, 11 ans maintenant, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu un projet comme ça, je pense qu'il n'y aurait plus d'ortillons dans ce coin. On a lancé ce projet que sur des parcelles en friche. Donc aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu un projet comme ça, je pense que même moi, en étant la deuxième génération d'ortillons, j'aurais quitté ce site.
Oui, en tout cas, ce site est aujourd'hui bien vivant et c'est grâce au festival.
Oui, grâce au festival qui a renforcé l'attraction touristique d'Amiens avec plus de 400 000 visiteurs en 10 ans venus admirer en pleine nature 150 œuvres artistiques qui interrogent le monde grâce aussi au travail effectué tout au long de l'année avec un chantier d'insertion sociale qui emploie une quinzaine de jardiniers pour l'entretien des jardins mais aussi des berges de la multitude d'îlots composant les ortillonnages sans oublier bien sûr les légumes produits sur place par les maraîchers dont Francis.
Alors, ces artistes, qui sont-ils et que nous donne-t-il à voir ?
Ils sont paysagistes, plasticiens, scénographes venus de France, de Belgique, des Pays-Bas ou de Taïwan, parfois très jeunes. Les étudiants d'art de l'université de Picardie en font partie cette année, avec des questionnements plein la tête qu'ils confrontent à la nature des ortillonnages et sa vie, et à sa vie très riche, Gilbert Filinger.
Il y a des pêcheurs, il y a des chasseurs, il y a nous, il y a des œuvres d'art, il y a du plaisir, il y a de belles choses, il y a du pique-nique. Les gens qui ont leur propre bateau, ils viennent, c'est-à-dire il n'y a pas de contraintes par rapport à ça. Il y a un millier de bateaux à peu près immatriculés.
Alors débarquons maintenant de l'un de ces bateaux, Eric, pour rencontrer Rachel Labastide.
Oui, sur son îlot, elle est en train de mettre la dernière main, c'est le mot, à sa sculpture en torchis, terre argileuse, malaxée avec de la paille, que du naturel. Attention, l'accent aussi, c'est celui du Pays Basque.
C'est un matériau qui est utilisé pour l'architecture, autrefois, mais qui est encore utilisé pour l'architecture, qui est fabriqué aussi par les animaux. Certains oiseaux fabriquent des nids en torchis. Il y a les guêpes maçonnes aussi. Donc je trouvais ça assez intéressant, ce va-et-vient entre l'humain et l'animal par rapport à ce site. Je ne voulais pas qu'elle soit posée, elle est comme ancrée dans le sol, vous pouvez voir. Il y a des éléments qu'on peut retrouver dans des outils qui sont en lien avec le sol, pour transformer le sol. On retrouve aussi des pattes d'animaux ou des dards. Et c'est aussi une sculpture qui va être évolutive. À l'intérieur, il y a des graines, donc il y a des choses qui vont pousser. Ce que je trouvais intéressant par rapport au site, c'est que je voulais vraiment qu'il y ait une interaction entre la sculpture et la nature. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de connivence qui va se créer et de va-et-vient. Pour moi, c'était quelque chose d'important.
Oui, parce que les œuvres, hein, certaines d'entre elles en tout cas, sont appelées à rester sur le site et même à évoluer avec lui.
Oui, comme celle du paysagiste néerlandais Joost Emmerik, réalisée l'an passé au nom paradoxal et pourtant évocateur quand on est sur place, Chasse aux fleurs, celle qui fait le lien avec les artistes, Nathalie Vallée nous la présente.
Quand il a fait la visite sur le site la première fois, il a été frappé par les huttes de chasseurs aussi, qui sont partie prenante de ce site des ortillonnages. Et il a recréé une hutte de chasseurs sur sa parcelle qu'il a recouverte totalement de plantes, de fleurs, qu'il a végétalisées. On ne peut pas rentrer dans cette hutte. Mais c'est voilà, réinverser le rapport et que ce soit les fleurs qui prennent le dessus sur la chasse. Et tout son jardin autour de cette petite hutte est un jardin extrêmement fleuri, très très coloré. Mais aussi, il a travaillé sur les odeurs, à la fois fait pour les yeux et fait pour le nez. Voilà.
On est loin de la tenue camouflage habituelle des cabanes voilà. Des chasseurs. Hein.
C'est une tenue de camouflage un peu plus colorée.
Chasse aux fleurs, l'une des œuvres parmi la cinquantaine que nous propose ce Festival international de jardin d'Amiens. C'est donc à partir du 14 juillet, donc de mardi prochain. Merci infiniment, Eric.
Atome par atome, je me recycle en plein de petits rien du tout. Je m'éparpille partout.
C'est à vous, Alain. Atome par atome, boule sur RFI.
Boule, Cédric de son prénom, qui se produit juste sous son nom et connaît déjà la consécration puisque l'une de ses chansons vient d'être réinterprétée par San Severino. Mais ce sont deux femmes qu'il a conviées sur son disque, à commencer par Lucrèce Sacella, qui est...
Lucrèce, c'est pareil, une amie chanteuse et pianiste, très bonne pianiste par ailleurs. Elle joue en ce moment elle accompagne un comédien dans une pièce de théâtre Vous n'aurez pas ma haine, je crois. C'est comme ça, issu d'un livre.
C'est un homme qui a perdu sa femme au Bataclan et qui récite un texte qu'il a écrit.
Voilà, c'est ça. Il y a une pièce de théâtre montée. Et en ce moment, elle joue dans ce spectacle. Donc, elle est pianiste, Lucrèce, et chanteuse. Elle a fait un album de chansons qui est très, très chouette. Bon, il y a de très belles chansons qui sont écrites par Antoine Salaire. Et donc, on s'est croisés plusieurs fois sur des scènes, en tournée, comme ça. Et je lui ai proposé de faire des voix, parce qu'elle avait déjà repris une de mes chansons en concert, sur une tournée que je faisais. Et puis c'est des rencontres. C'est avant tout des rencontres. Welcome in Hippopotami. Salmanazar et Salami. Bougeons nos fesses astronomiques en quantité gastronomique.
Welcome in Hippopotamie, quel joli titre Alain Boule, donc avec la participation de Lucrèce Sacella, qui n'est d'ailleurs pas la seule passagère sur cet album Avion.
Vous êtes bien renseigné Jean-François, la seconde est Jeanne Rochette.
Alors Jeanne Rochette, c'est une amie parisienne, chanteuse, comédienne, qui a beaucoup vécu au Québec, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et puis quand j'ai écrit cette chanson-là, j'ai aussitôt pensé à elle, parce que...
La chanson, c'est Avion.
La chanson Avion, pardon, oui.
Qui sonne d'ailleurs comme une soucoupe volante sur la fin.
Oui, c'est vrai, il y a des sons un peu rigolos. J'ai pensé aussitôt à Jeanne, parce que justement, elle prenait beaucoup l'avion pour aller au Québec, et c'était un sujet qui lui allait bien, et puis elle m'avait demandé ou proposé d'éventuellement d'écrire une ou deux chansons. Et du coup, moi je l'aimais beaucoup cette chanson, donc on a décidé de la faire en duo. Je veux te rejoindre en appareil volant, imitant l'oiseau naturel. Abandonner là les hommes indolents et le désordre structurel. As-tu voyagé tout autour du globe, caresser la peau de toutes les couleurs, ou tout simplement trouver un bon job afin de payer tes antidouleurs?
Boule, le titre de ce disque Avion. Alors, quelles sont les thématiques des compositions de Boule, Alain?
Les chansons de Boule, Jean-François, sont toujours inspirées de sa vie et de ce qu'il observe. C'est son regard singulier sur une époque. De toute façon, il lui semble que toute l'œuvre d'un artiste est en lien avec sa biographie. Il cherche toujours à provoquer deux sentiments. Boule ne veut pas qu'un morceau soit comique avec uniquement des blagues. Il aime mieux faire s'entrechoquer à un récit intimiste sensible avec des mots inattendus qui vont paraître humoristiques ou fantaisistes.
Vous avez des exemples?
Le personnage d'ours polaire est dans la situation d'être harcelé et abusé moralement par un petit patron lamentable. La victime est quelqu'un de sensible qui véhicule des valeurs comme la gentillesse, la tendresse et la fraternité. Poussé dans ses retranchements, bien cet homme est obligé de devenir violent et grossier car il ne supporte plus la condition dans laquelle il est. Dans Bicéphale, à la fin, Boule explique qu'il a retrouvé une forme de sérénité et de calme intérieur grâce à sa compagne. Elle l'a vraiment beaucoup apaisé. Mais en revanche, surtout pas de chanson d'amour au premier degré. Explication.
Premièrement, il y a beaucoup de gens qui font, je trouve que ça suffit, et pas probablement par pudeur. Voilà, puis une chanson ça reste, et puis probablement je saurais pas le faire. Je prends le temps d'être en retard, pas de quoi se mettre en pétard. Si tout le monde en faisait autant, tout le monde arriverait en même temps et des poussières.
Boule, je prends le temps. L'album s'intitule Appareil volant imitant l'oiseau naturel Avion, donc distribué par L'Autre Distribution.
Pour annuler un rendez-vous, une rencontre accidentelle qui me propose de boire un coup, c'est pas voulu, intentionnel. Si j'ai le mois d'avril en août, je vis.
Merci Alain, merci également à Marie, Marjorie et Eric. Dans un instant, le journal. On se retrouve lundi, bien sûr, pour parler de la voix, justement, avec un spécialiste, Jean Sommer. Il publie chez Lattès un livre passionnant intitulé La voix, cet outil du pouvoir. Et vous m'en direz des nouvelles.
Si tout le monde en faisait autant, tout le monde arriverait en même temps et des poussières.